Digne 14h.
Ah oui, 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 absolument.
Ça serait dommage que tu rates.
Oui, exactement.
Ah, la cloche sonne, il est 14h. Donc, je vais vous faire la petite introduction en vous souhaitant d'abord une bonne année, en particulier à ceux qui n'ont pas pu venir samedi à la journée sur Saint-Paul, animée par Roselyne Dupont-Roc. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là samedi? Donc pour cela, Anne m'a dit qu'elle avait mis l'audio en ligne, qu'elle a réactivé votre accès aux cours de deuxième année. Donc vous allez dans la bibliothèque des cours de deuxième année. Si jamais vous avez perdu votre mot de passe, vous cliquez sur « mot de passe perdu » et vous en refaites un. Et voilà, donc a priori, c'est ça. Si vous souhaitez le document écrit, à ce moment-là, vous montez au bureau en chercher un, mais vraiment pour ceux qui ne l'ont pas déjà eu, parce que de temps en temps, on a l'impression de faire marcher la photocopieuse. À tour de bras, on fait un petit peu attention quand même. Donc vous montrez au secrétariat et Anne vous le donnera. Donc là, démarrage avec le cours sur l'Église. Alors effectivement, j'entends bien, oh, je pense que ça va un petit peu moins me plaire. Et c'est vrai que c'est pas le sujet forcément a priori le plus, fascinant ou enthousiasmant. Et d'abord parce qu'on lui pose on lui pose beaucoup de questions, on a un rapport à l'Église qui doit être très différent les uns des autres, entre notre Sainte Mère l'Église et puis l'institution bien écrasante et puis le prêtre qui nous a... ou tel laïc dont on se dit ils sont tous au représentatif d'une Église sainte. Le rapport à l'Église n'est pas facile. Et je pense que ce cours, justement, c'est là où il trouve tout son sens. C'est que j'espère qu'il vous fera découvrir des nouvelles perspectives et peut-être bouger sur un certain nombre de points. Alors, Anne Righini, vous l'avez peut-être déjà vue, mais vous ne l'avez pas encore vu en cours. Elle donne ce cours depuis la cinquième année. Quatrième ?
J'ai commencé en 16.
Donc quatrième année. Pour la quatrième année. Elle est enseignante à l'Institut catholique de Paris. Elle s'occupe notamment d'un cours sur l'Église en ligne. Elle est docteur en théologie. Elle a fait sa thèse sur Lourdes, pour ceux qui aiment les pèlerinages. Peut-être que tu en diras un mot. Elle va vous faire voyager dans l'histoire. Parce que, comme vous l'avez vu, pour beaucoup d'autres cours, on ne creuse pas sa foi simplement dans le temps présent, mais bien sûr, on puise à la Bible et on puise à toute la tradition de notre Église et on puise dans toute notre histoire. Et c'est là qu'on voit que les discours évoluent et doivent tout le temps être repensés et réactualisés en fonction des nouvelles questions qui surgissent. Donc je pense qu'il y aura beaucoup à apprendre et je lui laisse la parole.
Merci Aude. Alors, ce cours d'aujourd'hui, il a un titre d'une originalité à faire peur, il s'appelle « Introduction ». Donc, voilà, vous avez une feuille avec le plan du cours d'aujourd'hui. Vous avez des numéros de pages, vous ne vous en souciez pas trop, ce sont, pour l'instant, ce sont les pages du cours qui est sous forme de poli et que vous pouvez retrouver sur votre accès au cours de deuxième année. Et je vous avoue simplement que ma maîtrise de Word ne va pas jusqu'à être capable d'enlever les pages de la page des matières pour vous faire une feuille sans page. Donc, c'est une... Et à la fin de ce cours d'aujourd'hui, je vous distribuerai le plan du parcours et on en discutera après notre introduction. Alors, la première partie, j'ai mis un cours sur l'Église aussi. La question qui est effectivement posée, c'est... moi je suis venue pour savoir qui était Jésus-Christ, qu'est-ce que ça voulait dire la Trinité, qu'est-ce que c'était, pourquoi on parle de péché originel. Je suis quand même intéressée par c'est quoi le baptême, c'est quoi l'Eucharistie, alors l'Église, il y en a peut-être un certain nombre qui se disent ça, c'est embêtant. Ou bien alors, il y en a qui se disent que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Et pourquoi l'Église fait partie d'un parcours théologique? Alors, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que l'Église fait partie de la foi chrétienne. Comme j'ai l'esprit de l'escalier, je vais commencer par la deuxième partie où je mets les premiers chrétiens ont mis l'Église dans leur confession de foi. Vous savez que, en principe, le dimanche à la messe, on récite un credo. Et dans ce credo, soit on prend la forme complète, dite de Nicée-Constantinople, et là on dit « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». On s'avance quand même beaucoup, mais on le dit dans le credo. Juste après le Saint-Esprit, et avant, si je vais prendre maintenant la forme plus courte qu'on appelle le symbole des apôtres, je crois à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la communion des saints. Excusez-moi, il y avait la communion des saints entre les deux. C'est pas inintéressant. Alors, on reverra ces formules. Mais ceci pour dire que quand les pères de l'Église, alors dans ces formules liturgiques, qui sont des formules, donc le credo de Nicée-Constantinople, c'est vraiment la formule sur laquelle, au IVe siècle, l'ensemble des évêques se mettent d'accord pour dire « c'est ça la foi chrétienne », ils décident d'y mettre l'Église. Donc, ils auraient pu décider de n'y mettre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait de quoi faire déjà. Et penser que l'Église, c'était juste une obligation de l'histoire qui fait qu'on est bien obligé d'avoir une structure sociale. Non, ils l'ont mis comme un article de foi. Et donc, on va essayer de faire un parcours aujourd'hui pour nous dire pourquoi l'Église est-elle objet de foi. Donc, ça, c'est une raison, je dirais, qui nous est donnée depuis quasiment les origines du christianisme. Deuxième chose, pour chacun d'entre nous, aucun d'entre nous n'est arrivé à la foi chrétienne sans quelque part une intervention de l'Église, bonne ou mauvaise, avec laquelle on était d'accord, avec laquelle on était en révolte, dans laquelle on a baigné depuis notre plus jeune âge, si on a été baptisé enfant, ou qu'on a rencontré beaucoup plus âgé, qu'on a des fois oublié, qu'on a des fois retrouvé, et sous des formes très variées. Donc on reparlera des différentes formes d'Église que nous avons connues. Mais donc, finalement, notre foi a forcément eu, quelque part, un intermédiaire d'Église. Donc, une deuxième raison pour mettre l'Église dans un parcours sur la foi. Alors, ici aussi, on s'appelle Centre pour l'intelligence de la foi. Je ne sais pas si on vous l'a dit, sinon je le redis, c'est pas grave. Saint Augustin de Canterbury définit le mot théologie, donc Saint Augustin de Canterbury, 11e siècle, il dit que la théologie, c'est la foi qui cherche à intelligere, à être intelligente. Et donc, c'est une démarche qui essaye de mettre des mots, de mieux comprendre ce qui nous fait marcher dans la foi. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ce que vous avez déjà essayé de faire l'année dernière. Et avant d'attaquer le parcours sur l'Église, comme il faut quand même toujours se référer à l'essentiel, on va lire une péricope de l'Évangile. Alors, vous savez ce que ça veut dire, une péricope? Hein, juste, c'est-à-dire un petit bout d'histoire qui a un sens en lui tout seul. Voilà. Alors, c'est une péricope que j'ai prise dans Matthieu, mais comme je vous ai mis là, elle existe également avec des petits détails différents dans Marc et dans Luc. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme. Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez cette péricope, il n'y a pas de problème. Mais si je la mets en tête de mon cours, c'est parce que je trouve qu'elle illustre bien ce qu'est une démarche de théologie. Et finalement, plutôt que de se dire que c'est Augustin de Canterbury ou saint Thomas d'Aquin qui nous apprennent à faire de la théologie, il faut revenir au maître, à Jésus lui-même, qui le fait avec ses disciples. Et cette démarche, je voudrais un petit peu la décortiquer pour vous montrer comment on la fait. Alors, qui on a ? On a un groupe, des disciples. Des disciples, c'est des gens qui cherchent à suivre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de questions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont convaincus de qui est Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de peur. Ça veut simplement dire qu'ils cherchent à aller plus loin dans leur relation à cet homme, qu'ils pensent que cet homme a des clés pour donner du sens à leur vie et que ça vaut le coup pour eux de le suivre. Ils sont allés dans la région de Césarée de Philippe, c'est-à-dire un peu plus loin. Donc, il y a cette dimension qu'on pourrait appeler de vérité, mais non pas de vérité, une espèce de vérité métaphysique qui descendrait du ciel, mais de vérité de la démarche, de vérité de la vie, de sens de la vie, qui fait qu'ils se sont mis en route pour suivre Jésus. Et qui sont arrivés dans la région de Césarée de Philippe. Donc, une démarche de théologie, c'est pas... J'enseignais les sciences physiques avant, et je disais, ben, quand j'enseigne, si je lâche un crayon, il tombe, j'y mets pas toute ma vie. Ça ne me bouscule pas. Et je ne bouscule sans doute pas mes étudiants en leur disant que le crayon va tomber. Alors que là, il y a une question existentielle. Deuxième chose, on va voir la nature de la question. La nature de la question, qui est le Fils de l'homme ? Alors, remarquez plusieurs choses sur cette question. D'abord, finalement, c'est une question essentielle, puisque c'est qui est Jésus-Christ ? Donc là, on est au cœur de l'essentiel. Deuxième chose, remarquez comment Jésus parle. Il parle de lui à la troisième personne. C'est-à-dire que, au début de la question, il met de la distance intellectuelle. Il n'est pas tout de suite dans la vérité, l'affectif, le sens de la vie, etc. Il commence par mettre de la distance. Une autre façon qu'il faut bien voir, c'est qu'il commence par demander aux disciples au dire des hommes. C'est-à-dire, il les invite à interroger autour d'eux, à interroger la tradition, à interroger les gens qui ont aussi de l'expérience, qui ont parlé, pour avant de formuler leur propre réponse. Donc, une forme qui, au début, a quelque chose, entre guillemets, de détaché. On voit à l'extérieur ce qu'on peut avoir comme réponse à une question qui est formulée de façon un peu neutre. Une autre chose que je voudrais souligner dans cette péricope, c'est le arriver dans la région de Césarée de Philippe. Et puis, si on lit l'évangile à la suite, il y a eu quelque chose avant, il y a eu quelque chose après. Les questions essentielles, elles ne sont jamais détachées d'un contexte, de l'endroit où on en est au moment où on la pose comme question. Ce qui fait que chacun de nous est à un endroit et nous tous, nous sommes à une étape de l'histoire de l'Église et de l'humanité qui fait que cette étape, on aura d'une part pas les mêmes hommes qui avant nous ou maintenant nous dirons les mêmes choses que des gens qui ont vécu il y a 3 siècles et que, je l'espère, nos successeurs dans 3 siècles. C'est une question pour l'ici et maintenant. Et dans un lieu précis, nous sommes dans la France du XXIe siècle, avec ses interrogations, ses forces, ses faiblesses, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de nos prédécesseurs. Donc, on a une façon de faire de la théologie qui commence par une question posée avec une certaine distance et pour laquelle on interroge l'extérieur. Après, je vais voir la première partie de la réponse. Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, à cette question, au dire des hommes, où ils vont chercher des ressources? Qui ils vont interroger? Et c'est dans leur réponse qu'on va voir. Ils vont interroger l'actualité, les gens de leur présent, et certains vont dire c'est Jean-Baptiste, puisqu'il est contemporain de Jean-Baptiste. Ou ils vont interroger leur grande tradition de foi, et ils vont dire Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, nous aussi, quand on va faire de la théologie, on va faire de la théologie de l'Église ici et maintenant, et on va interroger l'actualité, les questions d'aujourd'hui, et on va interroger la grande tradition de l'Église pour essayer de donner une réponse. Après, il ne faut pas oublier la suite, Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, on a complètement changé de ton. On est dans la démarche personnelle, celle, la démarche de foi. Et c'est là que, prenons la parole, là, il y a un « je » de Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il répond par une parole de foi, le Fils du Dieu vivant. C'est une parole de foi qui le met en route. Une parole de foi, c'est quelque chose qui met en route, qui donne de la solidité. C'est pas non plus ce que j'appellerais une certitude, je reprends, du fait que la Terre tourne autour du Soleil. C'est une parole de foi. Donc, toute notre démarche, ça va être de dire à propos de l'Église, d'arriver à « Et vous, que dites-vous de l'Église ?» Et vous allez avoir 2 parties dans la démarche, comme on le fait aussi. Ici, vous allez être en cours. Donc, moi, dans un certain contexte, avec ce que moi je suis, je vais vous dire ce que disent les uns, l'actualité, la tradition de l'Église, et je vais vous le dire, bon, je vais faire mes choix, hein. Je ne vais pas vous raconter qu'il y a que ces monolithiques. Et avec l'aide du groupe, vous allez discuter entre vous, vous allez encore lire des textes, des textes qui vont vous permettre d'arriver à prendre la parole sur « Et pour vous, c'est quoi l'Église ?» finalement. Donc c'est toute cette démarche que nous allons essayer de faire pendant ce trimestre. Donc, Voilà, donc le mouvement. Je vais maintenant, puisque je vous ai dit qu'on allait interroger la foi chrétienne, on va essayer de voir avec quoi on fait de la théologie de l'Église. Alors, je vous ai mis là une série d'objets, entre guillemets, qui vont nous permettre d'avancer dans notre question d'aujourd'hui. Et pour vous, c'est quoi l'Église ? En théologie, c'est pour ça que vous avez commencé par lire saint Paul, que vous avez eu l'année dernière une session sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. La première des premières des sources, c'est l'Écriture. Alors, l'Écriture, ceux qui ont assisté à la session sur saint Paul, vous avez vu l'action des premiers chrétiens qui se mettent en route pour créer l'Église. Ils tâtonnent, ils font ce qu'ils peuvent. Vous avez donc dans l'Écriture différents textes. Vous avez des textes qui parlent vraiment de l'Église. Alors, vous avez les textes des Épîtres, comme les Épîtres de Paul que vous avez lus, d'autres Épîtres que celles de Paul, qui parlent, dont certaines d'ailleurs, on vous dit que c'est l'Épître de Paul, par exemple en ce moment, on lit le dimanche l'Épître de Paul à Timothée. Les chercheurs ne sont pas tout à fait persuadés que Timothée et que cette Épître est de la plume de Paul, mais elle est dans ce mouvement. Et donc vous avez un certain nombre d'Épîtres qui sont dans le Nouveau Testament. Donc vous avez les Épîtres de Paul, vous avez l'Épître aux Hébreux, que maintenant nos Bibles n'attribuent à plus personne. Vous avez l'épître de Jude, deux épîtres de Pierre, des épîtres de Jean. Là aussi, c'est pas mon métier de vous dire qui les a écrites, mais elles sont rassemblées parce qu'elles s'adressaient à des chrétiens du tout début de l'Église qui essayaient de faire de leur mieux pour inventer l'Église au jour le jour. Et vous vous rappelez, si vous étiez là samedi, qui était souvent en train de pas vraiment faire l'essentiel, ce qu'il faut, puisque Paul, il a une certaine tendance à reprendre assez vertement les communautés qu'il a fondées, en leur disant qu'ils sont vraiment à côté de l'essentiel. Donc, ces épîtres, c'est peut-être le plus direct. Vous avez un grand ouvrage ecclésiologique qui sont les Actes des Apôtres, mais c'est une réécriture. C'est-à-dire que au bout de 50 ou 60 ans de vie en Église, on écrit comment l'Église est née. Donc, on ne manque pas de réécrire ça comme on raconte une histoire à ses petits-enfants. C'est-à-dire que on a quand même un peu lissé les aspérités et qu'on essaye de montrer que l'Esprit-Saint guide l'Église et que tout se passe bien, même s'il y a des forces extérieures. Quand on se dispute, ce qu'on fait à propos de savoir s'il faut ou non que les païens passent par la circoncision, on prie tous ensemble et on arrive à se remettre d'accord. Bon, c'est bien parce que c'est une relecture dans la foi de ces épreuves et de ces difficultés. Il ne faut pas non plus que nous prenions cette idée que tous les chrétiens avaient un même cœur, qu'ils ne se disputaient pas, qu'ils étaient unanimes, comme un modèle qui a vraiment existé. C'est plutôt leur leur relecture du fait que malgré leurs disputes, malgré leurs difficultés, eh bien, ils ont continué à avancer. Et ça, ils vont l'appeler l'Esprit Saint. Donc, ça, ce sont les actes des apôtres. L'Apocalypse de Saint Jean, qui est un texte très difficile, se présente comme un ensemble de lettres ou un discours qui s'adresse à sept églises d'Asie mineure. C'est un texte très difficile. Et puis vous avez, dans le Nouveau Testament, les évangiles. Les évangiles ne parlent quasiment pas d'église. Le mot est posé deux fois dans Saint Matthieu. Mais ça ne veut pas dire que quand on raconte l'histoire de Jésus, puisque c'est ça les évangiles,